Chapitre 4. Le message. Ce fut Magda qui repéra la première le tas de cendres encore fumant. Le dragonneau la vit soudain enfiler une paire de gants, puis se baisser pour saisir un objet long et fin qu'elle examina de tous côtés. Il s'approcha d'elle avec curiosité.
« C'est encore chaud ?»«
Oui, mais pas trop. »«
Qu'est-ce que c'est ?»«
Un tuyau en métal. »
Urana haussa les épaules, déçue, et commençait à s'éloigner quand un cri de Magda le retint.
« Il y a quelque chose à l'intérieur. »
Elle réussit à extraire du tube un rouleau de cuir à moitié calciné qu'elle s'empressa de dérouler. Sur la partie encore intacte étaient gravées quelques lignes d'une écriture serrée. Était-ce l'indice qu'ils cherchaient depuis leur arrivée dans le village des justiciers ?
Qu'est-ce qui est écrit ?
Magda tint le parchemin au-dessus de sa tête pour bénéficier du maximum de luminosité et lui en fit la lecture.
Le maléfique dragon d'hiver arrive. Il sera impitoyable. Faites des provisions et réfugiez-vous sans tarder dans le gouffre le plus profond du royaume. Quand les dragons seront vaincus, nous vous ramènerons vers la lumière. Détruisez ce message avant de partir. Il ne doit surtout pas tomber entre de mauvaises mains. Argon, seigneur suprême du...
C'est tout ?
Une partie du texte est brûlée.
Malheur de malheur !
Rugit Urana, frustré.
Cela ne nous explique pas le mystère de cet hiver maléfique. Quelle poisse ! Argon ? Qui est Argon ?
Je n'ai jamais entendu ce nom.
Lui répondit la guerrière.
Moi non plus. Ni chez les hommes, ni chez les dragons.
Qu'allons-nous faire, petit dragon ?
Il est temps pour nous de rentrer à Organdi, afin de montrer ce parchemin au roi. Peut-être saura-t-il qui est ce mystérieux Argon ?
Au moment où il s'apprêtait à quitter le village troglodyte, une étrange lueur derrière les arbres retint leur attention. Le reflet lumineux se déplaçait à vive allure et commençait déjà à s'éloigner. Sans réfléchir, le dragonneau se lança à sa poursuite et bifurqua pour lui couper la route. Pas une seconde, il ne pensa au danger qu'il serait peut-être obligé d'affronter. Il était déterminé à se montrer digne de son nouveau rôle d'élu au Conseil des rois. Urana jaillit juste devant la silhouette en fuite et se jeta dans ses jambes pour la faire tomber. Sa tentative se solda par un échec. Il traversa le corps de son adversaire sans rencontrer la moindre résistance et roula sur lui-même. C'était incompréhensible. Il se releva aussitôt et fut frappé de stupeur. Une ombre transparente, très grande et brandissant un immense sabre d'un bleu étincelant se tenait devant lui. Urana cligna plusieurs fois des yeux et se demanda s'il n'était pas en plein cauchemar. Car ce spectre de glace ressemblait à une personne qu'il avait connue il y a longtemps. Une personne dangereuse. Une personne qui lui avait fait du mal, qui était morte aujourd'hui et pour laquelle il ressentait toujours une haine sans limite. Draco. Draco, le père de Léna. Draco, le chasseur de dragons, l'homme qui avait tué sa mère. L'ombre de Draco ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Urana comprit néanmoins ces mots silencieux, comme si le vent les lui murmurait directement à l'oreille.
« Je te connais, affreux petit dragon. Sans ton maudit protecteur, le roi dragon, tu ne serais plus de ce monde. » Nos chemins se croisent à nouveau. Comme c'est amusant. Je vais pouvoir finir ce que j'ai commencé autrefois.
Le fantôme abattit son long sabre sur lui. Urana eut tout juste le temps d'esquiver la lame qui fendit un rocher en deux. Il riposta en projetant dans sa direction une puissante gerbe de flammes. Son adversaire n'eut aucune peine à la dévier grâce à son bouclier taillé dans une écaille de dragon. La colère d'Urana était telle qu'il commit une imprudence. En s'approchant du spectre de Draco pour contourner le bouclier, il se retrouva à portée de ce dernier, qui en profita pour lui transpercer l'aile avec l'extrémité tranchante de son sabre. Submergé par la douleur, il hurla et recula vivement.
Personne ne te sauvera aujourd'hui, petit dragon.
Grave erreur, maudit fantôme.
Magda s'interposa entre Draco et Urana, lui offrant un peu de répit. Elle réussit à détourner l'attention de Draco, mais ce dernier s'acharna alors sur elle, la désarma et la coinça contre le tronc pétrifié d'un arbre.
Baisse-toi, Magda !
En pensant très fort à sa mère, Urana se redressa et cracha tout le feu que contenait son ventre. Une pluie de flammes submergea le fantôme de Draco, qui recula en catastrophe. Son sabre devint rouge vif sous l'effet de la forte chaleur. Son bouclier lui fut arraché des mains et s'écrasa loin derrière lui. Le fantôme écarta les bras et tomba à genoux. Là, il se tortilla dans tous les sens avant de s'affaisser et d'émettre un sifflement strident. Puis, lentement, sans un bruit, il commença à fondre. Au bord de l'évanouissement, le dragonneau ferma sa mâchoire et s'écroula. Un grand vide s'était creusé dans son ventre, là où ses réserves de feu avaient atteint leur minimum vital. C'était sa limite. Une flamme de plus aurait provoqué sa mort. Ses yeux vitreux se fixèrent sur l'endroit où l'ombre transparente avait disparu. Au sol, subsistait une tache humide en forme de silhouette humaine.
Qu'est-ce que c'était ?
Lui demanda Magda en ramassant son épée.
Le fantôme du chasseur de dragons qui a tué ma mère. Que faisait-il là ? Sans doute était-il venu récupérer le parchemin que les justiciers n'ont pas réussi à détruire.
L'aile blessée du dragonneau le faisait horriblement souffrir. Il la tenait serrée contre son corps et n'osait la déplier. Se déplacer était devenu un véritable supplice. Une question tourmentait Urana. Qui était ce dragon d'hiver dont Argon annonçait la venue ? Était-il possible qu'un dragon renégat puisse défier l'autorité d'Ervael ? Dans ce cas, la forme blanche aperçue dans le ciel par Inona avait peut-être un rapport avec lui. Quelle monstrueuse hypothèse !
Nous ne pouvons plus rentrer à Orgondi, Magda. Nous devons prévenir sans tarder le roi dragon.